Vous écoutez RTL.
RTL Soir.
18h, 20h, avec Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, la réunion à l'Elysée qui mouille Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy. Pendant sa garde à vue, Stéphane Richard a révélé que Bernard Tapie a participé à une réunion cruciale à l'Elysée qui a validé l'arbitrage dans l'affaire qui l'oppose au Crédit Lyonnais. Aujourd'hui, le gouvernement est passé à l'offensive en demandant officiellement la révision de cet arbitrage. Et ce matin, sur RTL, Fleur Pellerin a accusé la Sarkozy en dénonçant un système organisé. Dans RTL Soir, toutes les infos, les réactions. À 18h20, Jean Perlevade, c'est l'ancien patron du Lyonnais qui s'est toujours élevé contre cet arbitrage à 403 millions d'euros.
Le 18h, Christelle Rebière.
RTL Soir.
Et bonsoir Christelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Et s'il y avait d'autres Jérôme Cahuzac, un gestionnaire de fortune accuse, une quinzaine d'hommes politiques de tous bords auraient eux aussi ardemment pratiqué la fraude fiscale. Encore quelques heures de patience, la grève à la SNCF dure jusqu'à demain matin, c'est la pagaille dans les gardes, nous irons Gare Saint-Lazare à Paris. L'Union fait la force, Pierre Gattaz deviendra patron des patrons cet été, ses deux concurrents se sont ralliés à sa candidature. Grosse émotion à Nogent-le-Rotrou, une tenancière de bar, dont l'établissement était le repère des lycéens, a été tuée après avoir été bâillonnée et ligotée. La Bourse de Paris gagne 0,11% à 3 798 points. Le quintet à Auteuil, il fallait jouer le 5, le 4, le 3, le 17 et le 9.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, l'avenir professionnel de Stéphane Richard entre les mains donc du conseil d'administration extraordinaire d'Orange qui se réunira la semaine prochaine. Mais qui sera autour de la table? Quelles seront les forces en présence? Puis direction les coulisses de l'actualité, les médecins en ont ras-le-bol, des lapins, trop de rendez-vous plantés, ils veulent être payés double même. On a passé la journée chez le médecin. À 18h35, la femme du jour, c'est Mireille Darc, 33 ans après sa première intervention. Elle vient de subir une nouvelle opération à cœur ouvert. Elle sort d'une longue convalescence. Elle a fait même un travail pour s'accoutumer à l'idée de la mort. Mimi, comme l'appelle Alain Delon, nous donnera de ses nouvelles. 18h54, Laurent Gérard. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Marc-Olivier.
Allez, retour au sec demain, ensoleillé sur toute la France avec en prime des températures souvent hausses que demande le peuple.
Exactement, j'ai bien compris de toute façon qu'il ne fallait pas que ça dure aujourd'hui. Là, quand j'ai vu la tête qu'on faisait dans les régions du centre et du nord.
Vous avez vu Christelle donc toute la journée.
Ouais, voilà. Exactement, vous avez tout compris. Donc voilà, demain retour du temps sec et ensoleillé partout. Le matin, on aura quelques brumes, brouillards, mais très vite, c'est le soleil qui s'imposera. Pas de précipitations, sauf très localement en montagne. Donc changement d'ambiance, notamment pour les régions de l'ouest. Tout cela avec des températures en hausse. Le matin, 8 à 10 degrés dans la moitié nord, 13 à 18 dans le sud, mais l'après-midi, jusqu'à 19 près de la Manche, 21 à 23 dans la moitié nord. Nous revoilà dans des valeurs de saison et jusqu'à 29 dans le sud.
Vive Louis Baudin.
RTL Soir.
Un cheminot sur trois en grève et plus des deux tiers des agents de conduite et des contrôleurs. Alors vous mesurez, rien qu'à ces chiffres, l'étendue des perturbations.
Leur ministre de tutelle, Frédéric Cuvillier, a beau les soutenir face au projet européen de réforme du rail. Les cheminots restent très mobilisés. 4 trains sur 10 en moyenne pour les TGV et TER, en moyenne. Dans le détail, c'est une galère à l'heure des retours du travail. Nicolas Georges, vous êtes Gare Saint-Lazare pour RTL.
Ah oui, trafic TER et transilien très perturbé ce soir. Comptez sur chaque ligne un train toutes les 30 minutes en moyenne contre un toutes les 10 minutes en temps normal. 30 à 40% des TGV circulent. Marc et Julie doivent se rendre à Caen et voilà plus d'1h30 maintenant qu'ils attendent un train.
Bon, on a marre parce qu'on a l'impression que c'est un peu à chaque fois pareil quoi. C'est fatigant parce que nous on est là pour travailler, on est là pour arriver à l'heure à nos rendez-vous. D'ailleurs là on a un rendez-vous justement maintenant.
On est obligé de prévoir une heure à une heure et demie en plus de ce qu'on avait prévu pour avoir nos correspondances ou ne serait-ce que pour être à l'heure. Il y a toujours un peu de problème donc c'est vrai que c'est un peu énervant.
Et puis certains n'ont définitivement pas de chance. Christian et sa femme reviennent de voyage en Slovaquie. Cela fait 24 heures qu'ils devraient être rentrés chez eux. Oui, mais voilà, ils ont connu deux grèves coup sur coup.
Ça a commencé par la grève des aiguilleurs. Les aiguilleurs, j'étais à Bratislava. J'étais obligé de prendre un bus qui est monté en Tchéquie, qui a traversé l'Allemagne. Et je me retrouve en France avec une grève des trains.
Vous gardez le sourire?
Oh bon, oui, ça va faire des souvenirs.
Et puis trafic perturbé aussi du côté des RER ce soir. Comptez un train sur trois sur les lignes B et D, 1 sur 2 sur les lignes C et E. Service proche de la normale sur le RER A.
Allez, bon courage à vous donc si vous rentrez chez vous à la gare Saint-Lazare pour RTL. Nicolas Georges. À chaque jour, Christelle, son coup de théâtre dans l'affaire Tapis Crédit Lyonnais. Hier, Stéphane Richard était mis en examen pour escroquerie en bande organisée et on commence à savoir ce soir ce qu'il a dit à la justice.
Oui, l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy affirme que Bernard Tapie était bien présent en 2007 lors d'une réunion cruciale à l'Élysée sur la procédure d'arbitrage. Un arbitrage qui lui a permis de récupérer 403 millions d'euros, Mathieu Delahousse.
Oui, moins de 24 heures après l'audition et la mise en examen de Stéphane Richard, une source judiciaire il y a moins d'une heure vient de nous confirmer ce rebondissement. Alors il s'agit d'une réunion tenue fin juillet 2007 à l'Élysée. On savait déjà que Claude Guéant, secrétaire général de la présidence de la République, avait convoqué ce jour-là à la fois Stéphane Richard, directeur de cabinet de Christine Lagarde, et Jean-François Rocky, le président de la structure chargée de liquider le passif du Crédit Lyonnais. Réunion à trois, pensait-on jusque-là? Non, à quatre, Bernard Tapie était là, a donc révélé Stéphane Richard aux enquêteurs. Et c'est ce jour-là, selon lui, que l'ordre d'aller à l'arbitrage aurait été donné. Cette version du PDG d'Orange est nouvelle. Jusque-là, Stéphane Richard n'avait pas évoqué cet épisode, donnant plusieurs versions et estimant surtout qu'il n'y avait eu ni ordre, ni instruction, ni pression. Écoutez ce qu'il disait, par exemple, il y a un peu moins d'un mois, ici même, sur RTL.
On est dans l'état d'esprit de gens qui sont disponibles pour répondre à toutes les questions qu'on nous posera, qui ont le sentiment peut-être d'avoir péché par imprudence, mais certainement pas par malhonnêteté. On s'apprête, je dirais, à répondre à toutes les questions qu'on va nous poser, et c'est pas évidemment une partie de plaisir, surtout qu'il faut aller puiser dans des souvenirs qui sont un peu anciens, ça fait 7 ans que ça s'est passé, c'est pas forcément évident, mais... Nous n'avons pas participé à une entreprise de fraude organisée.
Malgré l'ancienneté des faits, Stéphane Richard aurait donc ces trois derniers jours à la brigade financière retrouvé la mémoire sur ses réunions à l'Élysée. Et sur la fraude organisée, la vision des juges n'est pas la même. Il a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ce soir, ni Claude Guéant, ni Bernard Tapie, que nous avons eu au téléphone, n'ont voulu faire aucun commentaire.
Information RTL signée Mathieu Delahousse.
Et l'État n'a pas l'intention d'en rester là. Il va engager un recours en révision contre cet arbitrage. Quant à Stéphane Richard, pour revenir à lui, le patron d'Orange doit décider de la date du conseil d'administration qui statuera sur son avenir. Ce matin sur RTL, Fleur Pellerin, la ministre de l'économie numérique, a rappelé que la question de son maintien à la tête d'Orange se posait.
Et dans la ligne de mire de toute cette affaire, donc plus que jamais, l'Élysée époque Sarkozy, Christelle.
Oui, c'est sous Nicolas Sarkozy qu'il a été décidé de recourir à l'arbitrage pour régler ce dossier. Alors, qu'en pense l'ancien chef de l'État et ses proches, Jérôme Florin ?
Eh bien, d'après un proche de Nicolas Sarkozy, l'ancien président serait ulcéré aujourd'hui par les développements judiciaires de cet arbitrage. L'Élysée, à l'époque, aurait voulu simplement solder une affaire qui traînait depuis longtemps. Voilà la défense de l'ancien chef de l'État. C'est d'ailleurs ce que disait Christine Lagarde à l'époque. La présence de Bernard Tapie à l'Élysée, et alors, disent aujourd'hui les soutiens de Nicolas Sarkozy, comme Guillaume Pelletier.
Je ne vois pas au nom de quoi ce type de réunion serait préjudiciable aux contribuables. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse dans ce dossier, c'est est-ce que les contribuables français ont été floués ? Si c'est le cas, les coupables devront répondre devant la justice. Si ça n'est pas le cas, on aura parlé pour rien.
Alors ce matin sur RTL, la ministre Fleur Pellerin ciblait un système organisé sous l'ancienne majorité. Une expression qui a fait bondir toute la Sarkozy ce matin. Des propos de militants scandaleux s'étranglent un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Mais dans le fond, les proches de l'ex-chef de l'État veulent croire que ces affaires n'intéressent pas grand monde. Écoutez Isabelle Balkany.
Personne ne vient nous parler, pas plus sur les marchés, pas plus quand nous nous baladons en ville. Personne ne vient nous parler de tapis, des problèmes de Guéant, mais tout le monde s'en fiche. Le problème, et alors personne encore plus ne nous parle de Madame Pellerin et de son action fantastique en faveur des PME et de l'innovation. Si c'est ça l'innovation, écoutez, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle.
Alors un ancien ministre veut croire que cette affaire, d'ailleurs comme l'affaire Bettencourt, fera pchit.
Merci Jérôme Florin. Et puisqu'on est dans les affaires, on va s'arrêter sur des soupçons de fraude fiscale. Un gestionnaire de fortune ayant travaillé en Suisse, accuse.
Pierre Condamin-Gerbier a été entendu par le Parlement dans le cadre de l'élaboration de la future loi destinée à lutter contre la fraude fiscale, justement. Il a travaillé chez Rail Private Office, dont on a entendu parler au moment de l'affaire Cahuzac, qui est du reste l'un des témoins clés dans cette affaire. Et il balance. Aujourd'hui, il y a bien d'autres Cahuzac, ministres et anciens ministres de tous bords. On l'écoute.
J'ai vu depuis 20 ans ces pratiques. J'ai dans certains cas des documents très précis qui permettent d'étayer la présence de ces dossiers de façon totalement irréfutable. Des gens politiquement exposés, des Français, des politiques ayant des actifs non déclarés, on en retrouve dans l'ensemble des établissements suisses et dans certains établissements d'autres places offshore.
Vous ne voulez pas dénoncer des hommes, vous voulez dénoncer un système, mais est-ce que finalement donner des noms risque pas d'entraîner des nouvelles affaires judiciaires sur des hommes politiques français par exemple?
Ce sera certainement le cas. Je crois que pour moi, ce qui est important, c'est de montrer encore une fois que l'affaire Cahuzac, même si c'est un révélateur, n'est pas le mensonge d'un homme et que c'est simplement le voile qu'on est en train de lever sur un système.
À quel moment pourrez-vous les remettre à la justice ou à la police?
À un moment pas si éloigné que ça, où peut-être que l'actualité brûlante qui entraîne beaucoup d'amalgames et de désinformation aujourd'hui se sera un petit peu calmé, où il y aura probablement un peu plus de tranquillité pour analyser de façon sereine ces informations.
Pierre Condamin Gerbier au micro RTL de Mathieu Delahousse.
Et Benoît Hamon, le ministre délégué à la consommation, le prend au mot. S'il a une liste, eh bien qu'il la donne à la justice. Le dernier adieu à Pierre Mauroy à Lille, funérailles à la cathédrale, Martine Aubry au bord des larmes, c'est adressé à l'ancien maire. Je sais que tu serais touché de voir toute cette foule. Et elle a ajouté, ne t'inquiète pas, on continue.
Dans un instant, la patronne d'un bar assassinée à Nogent-le-Rotrou.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Et pour le journal avec Christelle Rebière, il est 18h12.
Elle tenait le bar du coin, comme on dit, et c'était une figure dans son quartier. À Nogent-le-Rotrou, la tenancière d'un café a été tuée. Son corps a été retrouvé sur son lit, ligoté, bâillonné, Christelle.
Agression gratuite, cambriolage qui aurait mal tourné, toutes les pistes sont ouvertes. Nicolas Barthène, vous êtes sur place pour RTL et sa disparition suscite beaucoup d'émotions.
Oui, dans la commune, c'est toujours l'émotion et l'incompréhension. Devant le kiosque, des bouquets de fleurs ont été déposés derrière les cordons de sécurité. À travers le rideau fermé, on distingue les journaux encore exposés. C'est la scène que découvre désormais Gaëlle le matin lorsqu'elle ouvre ses volets. Elle habite juste en face.
Moi, c'est dans les films que je vois ça, mais devant chez moi, j'aurais jamais réalisé qu'il y aurait une chose pareille, quoi. C'est horrible. Pourquoi elle? Elle a travaillé toute sa vie, cette femme. On n'a pas le droit de faire ça aux gens, de tuer. On n'a pas le droit du tout.
La patronne du bar a été retrouvée hier matin sans vie, allongée sur son lit, ligotée et bâillonnée. Un cambriolage qui aurait mal tourné. Audrey l'a bien connue, elle est lycéenne dans le collège d'à côté.
Elle acceptait qu'on aille aux toilettes chez elle quand il pleuvait, qu'on n'avait nulle part où aller. Enfin, elle était gentille, quoi. Un peu comme une deuxième amie.
Samantha, elle aussi, venait souvent la voir avec ses camarades pour boire un verre après les cours.
Souvent, quand on avait besoin de réviser et que nous, on comprenait pas, elle venait nous voir, elle essayait de nous expliquer. Et non, franchement, c'est choquant.
Certains lycéens avaient même prévu une fête pour elle à la rentrée. C'est à ce moment-là que la gérante aurait dû prendre sa retraite pour ses 60 ans.
À Nogent-le-Rotrou pour RTL, Nicolas Barthène.
L'enquête se poursuit sur le furosémide. Les gendarmes perquisitionnent en ce moment les laboratoires Teva à Sens, qui pourraient être responsables d'un mauvais conditionnement de ce médicament. Une enquête préliminaire a été ouverte hier.
L'élection n'aura lieu que dans un mois, mais on sait déjà qui a gagné au MEDEF, c'est Pierre Gattaz, il va succéder à Laurence Parisot.
Ses deux autres concurrents ont décidé de se rallier à sa candidature sur le thème « L'union fait la force ». Ils promettent un MEDEF ouvert et efficace. On écoute Pierre Gattaz.
C'est pas la peine d'aller plus loin dans la campagne, peut-être s'écharper ou se battre les uns contre les autres, alors que le pays et les entreprises attendent une unité. Donc on a écouté le terrain et je crois que c'est très bien, car nous partageons encore une fois le même combat, les mêmes convictions, le même programme. Donc on s'est dit, faisons une équipe ensemble. Il y a un chef, il y a deux vice-présidents délégués, et je pense que par rapport à la situation du pays et de l'économie, avec la récession, le taux de chômage que nous avons, il faut se mettre tout de suite en musique et tout de suite en marche. Et je crois que ce 3, c'est très bien, c'est une équipe. C'est une équipe qui montre en effet une unité et nous sommes chefs d'entreprise avant tout et nous ne sommes pas des hommes politiques.
Pierre Gattaz au micro RTL de Camille Cronier.
Xavier Darcos vient de gagner son immortalité. Il a été élu à l'Académie française au fauteuil 40 qu'occupait Pierre-Jean Rémy. L'ancien ministre de l'Éducation nationale est aussi un fin lettré. Il a même enseigné la littérature comparée à la Sorbonne.
Merci Christelle, à tout à l'heure donc à 18h30. Les clés pour bien comprendre l'actualité.
Ce matin, sur RTL, Fleur Pellerin disait que le maintien de Stéphane Richard à la tête d'Orange était posé à la suite donc de sa mise en examen dans l'affaire Tapis Crédit Lyonnais dont nous venons de vous parler. Un conseil d'administration extraordinaire de l'entreprise se réunira en début de semaine. Alors, qui va décider du sort de Stéphane Richard? Qui sera autour de la table, Éric Vanier?
15 personnes, dont Stéphane Richard lui-même. 15, c'est le nombre de sièges au conseil d'administration d'Orange qui se décompose de la façon suivante. 3 représentants de l'État, ce sont des hauts fonctionnaires. Ils sont là pour défendre défendre les intérêts de l'État actionnaire principal d'Orange avec 27% du capital, trois administrateurs salariés élus par le personnel avec l'étiquette CGT, Sud-PTT et CFDT pour le dernier, un représentant des actionnaires salariés et pour les sept autres, des personnalités qualifiées qui viennent souvent du monde économique comme Rosélo Esdouan, l'ancien patron de Carrefour, ou Bernard Dufault, l'ancien PDG d'IBM, mais aussi d'autres horizons comme la spationaute et ancienne ministre de la Recherche Claudie Aigneret, ou Jean-Michel Severino, un proche de Martine Aubry pour qui il a fait la campagne des primaires, expert des questions de développement international. Le sort de Stéphane Richard à la tête d'Orange dépend donc de ces personnes.
Et est-ce qu'on a déjà une idée de la décision qui pourrait être prise?
Non, difficile de le dire parce qu'il y a aussi des influences extérieures, politiques et économiques. La décision de mettre fin ou pas au mandat de Stéphane Richard devra se prendre à la majorité simple d'ailleurs, ça suffit. Ce que l'on peut noter, c'est que dans l'affaire Tapie, l'État s'est porté partie civile, et ça, ce n'est pas de très bon augure pour Stéphane Richard, et que deux syndicats représentés au conseil d'administration, la CGT et Sud, se sont désolidarisés de leur patron. Ça fait 5 voix. Il en faudrait encore 3 pour mettre en minorité le PDG d'Orange.
Merci Eric Vanier. À suivre, Stéphane Richard, donc, qui a révélé que Bernard Tapie a participé à l'Elysée à la réunion qui a validé l'arbitrage qui lui a rapporté 403 millions d'euros. Premier invité d'RTL Soir, l'ancien patron du Lyonnais, Jean-Pierre Levade.
RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h.
18h20.
Premier invité d'RTL Soir, donc l'ancien président du Crédit Lyonnais entre 1993 et 2003. Bonsoir Jean-Pierre Levade.
Bonsoir.
Stéphane Richard a donc affirmé aux enquêteurs que Bernard Tapie était présent en 2007 à une réunion à l'Elysée destinée à valider la procédure d'arbitrage. Vous avez entendu le journal tout à l'heure, Mathieu Dallaus, qui disait que Guillaume Pelletier, proche de Nicolas Sarkozy, disait « Et alors ?» Vous, ce soir, vous dites ?
Ça prouve ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire qu'une décision de cette importance, dans son principe, je ne parle pas du montant pour l'instant, le principe de l'arbitrage sur une affaire de ce type est tellement contraire aux traditions républicaines et même à la loi qu'il ne pouvait être pris qu'avec un feu vert politique au plus haut niveau.
Mais le fait que Bernard Tapie ait été à l'Elysée le jour où cette décision a été prise. Ça vous inspire quel commentaire, Jean-Pierre Levade ?
Que manifestement, son pouvoir d'influence était grand.
Directement, aujourd'hui, Claude Guéant est dans le viseur, puisque c'est dans son bureau que ça s'est passé. Il était là, Mathieu Dallaus le révélait. Claude Guéant, mais à votre avis, Nicolas Sarkozy était au courant et c'était à son initiative ?
Son initiative, je ne sais pas, mais au courant, oui, très probablement.
Vous avez entendu les chefs d'inculpation, ceux de Stéphane Richard, escroquerie en bande organisée. La bande organisée, c'est qui ?
Ça, je ne sais pas. Je peux vous donner ma conviction, que j'ai d'ailleurs affirmée dès le lendemain de l'arbitrage, quand j'ai vu ces résultats. L'arbitrage est le résultat d'une manipulation. Ça me paraît absolument évident. Naturellement, l'un des arbitres a été mis en examen. Je pense qu'on va poser aussi la question aux deux autres arbitres. Est-ce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils ont fait ou pas ? Monsieur Rocky, qui était le président du CDR, a été mis en examen. Et manifestement, il fait partie de ceux qui ont participé relativement activement à l'arbitrage lui-même. Au-delà de ça, je ne sais pas. Je tiens à bien distinguer. Il y a une décision politique d'aller à l'arbitrage qui vient certainement du sommet de l'État. Il y a une manipulation au niveau de l'arbitrage lui-même. Je ne sais pas aujourd'hui, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juge, je ne sais pas qui a participé ou pas à cette manipulation. L'enquête le dira.
En tout cas, aujourd'hui, l'État confirme qu'elle demande une révision de cet arbitrage.
J'en suis très heureux.
Il était temps ?
Il était temps. Je pense qu'il faut rappeler d'un mot d'où vient ce que je considère être comme un scandale d'État. La thèse des avocats de M. Tapie depuis l'origine, c'est que le Crédit Lyonnais, en 1992, au moment de la vente d'Adisdas, a spolié M. Tapie. Ma thèse, c'est que au moment de la vente d'Adidas en 1992, le Crédit Lyonnais a mis en place ce système compliqué et opaque pour sauver M. Tapie, dont les affaires Adidas et les autres affaires étaient en état d'insolvabilité. Donc on a fait ça pour lui éviter un dépôt de bilan.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites Bernard Tapie doit rendre l'argent ?
Procédons par ordre. Aujourd'hui, la première chose, c'est l'annulation de l'arbitrage, dont j'espère qu'elle va se produire. Ensuite, le droit dit qu'on va se retrouver dans la situation immédiatement précédente la décision d'aller à l'arbitrage. C'est-à-dire, on va se retrouver à nouveau devant la justice ordinaire, si je puis dire. Mm-hmm. La cour d'appel, qui était prévue pour siffler la fin du match.
Et pas cet, arbitrage décidé à l'Élysée.
Et donc, j'ai confiance dans ma propre thèse. Je pense que la cour d'appel confirmera.
Pour terminer, le sort de Stéphane Richard se joue, patron d'Orange, 150 000 salariés, 170 000 même. Est-ce que Stéphane Richard, avec ses chefs d'inculpation lourds, peut rester à la tête d'Orange ?
C'est à lui d'en juger, en conscience. Et il n'y a que lui qui peut en juger.
Mais vous, vous souhaitez ?
Je n'ai pas d'avis sur la question. Je distingue ses responsabilités qui sont grandes et le rôle qu'il a pu jouer ou ne pas jouer dans une affaire sur laquelle l'enquête se poursuit. C'est à lui de juger si l'existence de l'enquête l'empêche d'exercer ses responsabilités ou pas. C'est son jugement.
Merci Jean-Pierre Levade d'être venu ce soir sur RTL. À suivre, quand vous réservez une chambre d'hôtel et que vous ne venez pas, vous perdez vos arts. Si chez le médecin, on vous faisait payer deux fois en cas d'annulation en cas de dernière minute. C'est ce qu'il réclame. On a passé la journée chez le docteur, on vous emmène en coulisses.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
18h27.
Ce soir, immersion dans un cabinet médical. Les médecins en ont marre donc des patients qui n'honorent pas leur rendez-vous. Ils veulent qu'ils passent tout de même à la caisse. Ça désorganise leur journée de travail. Ils sont même obligés de faire du surbooking pour compenser. Du coup, tout le monde y perd. Alors, on va vous emmener chez le médecin. Avec vous, Samuel Goldschmidt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez passé la journée chez le docteur Invoix, généraliste à Vendeuvre-les-Nancy, dans l'Est. Donc, il y a eu beaucoup d'annulations aujourd'hui ?
Oui, c'était, enfin, ça m'a étonné, moi en tout cas. Il finit ce soir à 20h, donc pour l'instant c'est un peu le suspense. Mais hier, pour 20 rendez-vous, 4 patients lui ont posé un lapin, il n'y a pas d'autre expression. Ouais. Et c'est comme ça, explique calmement le docteur Invoix, il faut faire avec. Et c'est d'ailleurs comme ça tous les jours. Le docteur qui raconte que tout de même 5% des patients qui annulent un rendez-vous chez lui préviennent quand même. Le docteur Invoix est généraliste, mais il raconte que c'est assez banal chez ses collègues spécialistes, ophtalmologues, rhumatologues. Il y a en moyenne 10% de rendez-vous qui ne sont pas honorés.
Ah oui, 10% quand même. Alors comment ils s'organisent pour lutter contre ces annulations intempestives, Samuel ?
Alors, pas de surbooking, pas de pénalité, ce n'est pas le genre de la maison. Le docteur Invoix est plutôt placide face à ce phénomène, même s'il lui est arrivé des mésaventures. Il y a des patients qui n'aiment pas attendre. Certains quittent la salle sans autre forme de procès. D'autres tiennent à le faire savoir, jusqu'à ce patient, bon client en plus, qui a fini par menacer à la cantonade et crever deux pneus de la voiture du praticien. Ça s'est terminé par un dépôt de plainte. Le docteur ne l'a plus revu. Alors, tout ça, ça n'est pas du surbooking, mais le docteur Invoix a mis l'anecdote. Le patient qui arrive pour un rendez-vous, mais qui, à l'improviste, débarque avec une deuxième personne. Vous ne pourriez pas voir rapidement ma sœur, elle a ceci ou cela. Ouais. Et puis une journée dans un cabinet, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Un coup de fil pour gérer le dossier d'un autre patient, décider d'une hospitalisation par exemple, c'est tout de suite du retard pris sur ceux qui sont dans la salle d'attente. Le docteur Invoix est clair, généralement sa journée se termine 1h30 après l'horaire officiel de fin des consultations.
Et Samuel, du côté de la salle d'attente des patients, comment ça se passe ? Ils sont prêts à être pénalisés en cas d'annulation ?
Prêts, ce n'est pas le sentiment qu'ils donnent. Habitués à voir fleurir des conditions de rendez-vous plus strictes, ça oui. Pas chez leur médecin généraliste, qui n'apprécie pas cette manière de faire, on l'a vu, mais chez leur spécialiste, un gynécologue qui annonce une pénalité en cas de rendez-vous manqué, tel autre qui facture aussi une pénalité, mais s'il n'en a pas prévenu avant ou s'il n'en a pas prévenu au moins 48 heures à l'avance. On m'a parlé de 10 euros par exemple, rarement le prix d'une consultation complète. Et puis il y a plus radical, un dentiste qui ne vous reprend plus si vous manquez un rendez-vous sans prévenir. Sinon dans la salle d'attente du docteur Invoix, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. S'il faut attendre, on attend. C'est le médecin après tout qui est le maître de son rythme de travail.
Les coulisses de l'actualité étaient signées depuis Vendeuvre, les Nancy, Samuel Goldschmidt.
RTL, première radio de France.
Il est 18h30 sur RTL.
RTL Soir.
18h, 20h, avec Marc-Olivier Fogiel.
Bon pied, bon oeil, Christelle Rebière.
Nouveau rebondissement dans l'affaire Tapis Crédit Lyonnais. Stéphane Richard, qui vient d'être mis en examen pour escroquerie en bande organisée, affirme que Bernard Tapie était présent en 2007 lors d'une réunion cruciale à l'Élysée sur la procédure d'arbitrage. L'État, lui, va engager un recours en révision contre cet arbitrage qui avait permis à Bernard Tapie de récupérer plus de 400 millions d'euros. En Turquie, les manifestants refusent d'évacuer le parc Gezi malgré l'ultimatum du Premier ministre. Ce dernier leur a lancé aujourd'hui un dernier avertissement. Perquisition en ce moment à Sens au laboratoire Teva, soupçonné d'un mauvais conditionnement sur un médicament. Par ailleurs, une enquête a été ouverte à Toulouse après le décès d'un homme qui prenait du furosémide. Le printemps pourri nous aura coûté cher. La consommation de gaz a bondi d'un quart au mois de mai. Les livraisons de fuel, elles, de 80%. C'était aussi le mois le plus froid depuis 26 ans. Allez, on oublie tout ça. Louis Baudin, le soleil est là, enfin, pour tout le monde.
Oui, demain, en tout cas, il reviendra pour tout le monde après le passage de la perturbation qui aujourd'hui a concerné l'Ouest. Dans la journée et la nuit prochaine, les régions de l'Est, on retrouvera un temps sec et ensoleillé, quelques nuages le matin, mais bien du soleil pour tout le monde. L'après-midi, un rare risque d'averse en montagne et des températures qui vont grimper l'après-midi, 17 à 19 près de la Manche, mais 21 à 23 dans les autres régions de la moitié nord et 24 à 29 dans le sud.
On développe à 18h50, Louis Baudin. Bonne soirée, Christelle.
Bonne soirée.
À suivre, on est particulièrement heureux de recevoir la femme du jour. Elle vient de subir 33 ans après sa première intervention, une deuxième opération à cœur ouvert. Bonsoir Mireille Darc.
Bonsoir.
Vous venez, Mireille, nous donner de vos nouvelles. On va développer dans un instant après la publicité. La première question est simple. Vous qui vous êtes accoutumée, dites-vous, à l'idée de la mort, comment allez-vous ce soir?
Oh, je vais formidablement bien. La vie est belle.
En pleine forme?
Oh oui.
Un peu essoufflée, je vous trouvais en rentrant dans le studio, Mireille.
Un petit
Mireille.
Peu, mais il fallait monter des escaliers.
Mireille Darc, en forme, un peu essoufflée, ce soir au micro d'RTL. Elle nous donne de ses nouvelles dans un instant.
RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel, jusqu'à 20h.
18h35.
Deuxième donc invité d'RTL Soir, Mireille Darc. Mireille, il y a pile 3 mois, jour pour jour.
Exactement.
Vous vous êtes fait opérer du cœur une deuxième fois. La première fois, c'était il y a 30 ans.
Oui, 1980.
Qu'est-ce qui s'est passé pour à nouveau avoir eu besoin de passer sur la table d'opération dans les conditions un peu difficiles que vous allez nous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé
J'ai
en fait?
J'ai passé 33 ans de ma vie, je me suis usée. Et un jour, on m'a dit, il faudra y repenser, Mireille, mais il faut y retourner. Et là, ça vous tombe sur la tête, vous dites, c'est pas possible, je vais bien, je vais très bien.
Il y avait quand même un petit bruit récurrent que vous entendiez avec ce cœur qui battait pas comme il aurait dû.
C'est-à-dire qu'il était, violent, il tapait. Et en fait, c'est le sang qui n'arrivait pas à sortir du cœur parce qu'il y avait un autre rétrécissement qui s'était opéré.
Comme la première fois.
Ouais.
Vous y êtes retournée à l'hôpital?
Oui.
Ça a été compliqué, l'angoisse?
Non, c'était difficile parce qu'il s'est passé 4 ou 5 mois. Donc pendant 4 ou 5 mois, vous y pensez jour et nuit à cette opération. Et vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même motivation. Vous vous sentez bien en plus. Donc, il faut vous motiver pour y aller.
On pleure? On
j'ai
a peur?
Pleuré. J'ai eu très peur aussi.
Peur de quoi, Mireille? Peur de la mort?
La mort. Peur de mourir, bien sûr. Donc, moi, je suis partie du fait que je ne voulais pas qu'on en parle autour de moi, même aux gens les plus proches. Mmh. Je voulais... parce que chaque fois que vous le dites à quelqu'un que vous aimez beaucoup... Il éprouve une émotion. Cette émotion, vous la récupérez.
Un moment.
Et en fait, oui. Et en fait, elle vous met par terre. Parce que tous les gens ont peur pour eux-mêmes, pour vous aussi. Mais il y a quelque chose de terrible.
Qui était dans la confidence, votre mari, Pascal?
Oui, bien sûr.
Alain?
Bien sûr.
Delon?
Oui.
Ils se sentiraient les coudes autour de vous, quoi.
Ah oui, bien sûr. Et puis, les enfants de mon mari, voilà. C'est tout.
Vous avez pensé à la mort. Vous avez même fait un travail.
Non, j'ai travaillé là-dessus.
Vous accoutumez à l'idée de la mort.
Oui. Le premier jour, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré 2 ou 3 heures dans la journée tellement l'idée de mourir, de laisser les gens que j'aimais, vous vous croyez toujours indispensable. Mmh. Et puis, petit à petit, je me donnais un rendez-vous tous les jours avec moi-même. Et puis, bon, au bout d'un mois ou deux, eh bien, les choses sont devenues plus simples. J'ai commencé à être positive en me disant j'ai eu une belle vie, j'ai fait des choses vraiment sympathiques et vraiment bien. C'est pas très grave. Je vais laisser mon mari. Ça me faisait quelque chose. Mais voilà, petit à petit, je l'ai accepté. Donc, je suis partie assez gaillarde.
En décidant de la date, oui. Précisément, parce que les chiffres, vous parlez,
c'était
vous
beau,
qui
hein.
avez choisi la première opération en fonction des thèmes astrologiques oui. des uns et des autres. Là, c'était les chiffres le 13 mars 2013.
13, 3, 13. Je trouvais que c'était assez
3,
beau.
Beaucoup de 3, quoi.
Il y a eu beaucoup de 3.
C'est comme ça que vous avez choisi.
Oui, c'était assez esthétique. C'était assez. Il y avait du panache dans ce 13, dans ce 3, oui.
Deuxième opération à cœur ouvert, qui s'est bien passée. On est heureux, le retour à la réalité a été un peu compliqué. Le réveil, la morphine, les antalgiques, le délire à cause des médicaments.
J'ai pas bien vécu l'anesthésie. C'est très dur l'anesthésie, parce qu'elle est très puissante. On vous drogue pour que vous n'ayez pas mal. Donc vous arrivez, vous réveillez, et là vous êtes dans un autre monde, vous êtes avec d'autres gens, vous êtes dans d'autres pays, avec des êtres que vous ne connaissez pas. Il y a quelque chose de brouillon qui se passe, et là ça devient un peu angoissant.
Finalement, vous êtes là, vous êtes réaccroché à la vie.
Beaucoup... Ah, je suis accroché.
Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous vous accrochez après tellement d'épreuves comme ça, Mireille ? Parce que deux opérations à cœur ouvert, un accident de voiture, on sait, la séparation avec Alain, même si depuis vous avez largement reconstruit, la mort de votre deuxième compagnon, Pierre Barré, le fait de ne pas
avoir...
Parce
que la vie est belle, parce que la vie est formidable, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas à vous que je vais dire ça, Marc.
Oui, mais bon, moi, vous me fascinez toujours et depuis très longtemps, Mireille, donc vous le savez. Vous le non, savez mais bien. Vous avez cette énergie. On peut donner votre âge, Mireille.
75 ans.
75 ans, la même qu'il y a 40 ans.
Ben oui, non, mais...
Regardez Isabelle,
ah, bravo.
Qui en a les larmes aux yeux aussi.
Ben oui, mais bon, ça, j'y pense jamais, moi, à l'âge. Hein. L'âge n'existe pas pour moi. J'espère continuer à faire des documentaires, me lever à 5h du matin, repartir sur la route, tourner, faire des choses qui me tiennent au ventre.
À cœur.
C'est
le cas de le dire.
Oui, maintenant, je ne parle plus du cœur. Je parle du ventre.
Quand vous retournez, vous vous êtes retourné à l'occasion de ce rendez-vous important avec le destin, d'une certaine manière. Dans les côtés positifs de votre vie, vous avez mis quoi d'abord ?
Des relations humaines que j'ai eues avec les gens qui m'entourent, ma vie affective. Je veux dire, j'ai quand même vécu des passions assez fortes et sublimes avec des hommes merveilleux. Et je crois que ça, c'est très important.
La carrière ?
Après, bien après. Bien après, bien après. Je crois que les relations humaines sont beaucoup plus fortes.
Et dans la colonne moins, vous avez mis quoi, Mireille ?
Je veux dire, le fait ces attentes où vous ne savez pas si vous avez quelque chose de grave, pas grave. Ce que vivent beaucoup de gens qui sont malades. Donc, il faut penser aussi à eux. Il faut leur donner un peu de courage. Il faut affronter les problèmes humains. Il faut affronter son destin.
Dans la colonne moins, le fait que cette maladie vous ait empêché de donner vous-même la vie, ça a été dans la colonne moins.
Bien sûr que c'est énorme, c'était terrible. Mais j'ai des petits-enfants aujourd'hui, alors bon, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est quand même pas mal.
Des petits-enfants, puisque vous en occupez, mais est-ce que vous allez retourner, Mireille ? On a envie de savoir, on a envie de vous voir...
Mais peut-être, Marc. On me le demande, en tout cas, en ce moment.
C'est vrai ?
Oui, ça m'amuse beaucoup, d'un seul coup. On me dit, au mois de juillet, vous seriez libre pour tourner 6 jours ? Eh bien, oui, peut-être. Je suis un peu fatiguée, quand même. Je suis un peu fatiguée par cette opération, mais j'aimerais bien le faire.
On va vous revoir sur grand écran.
Oui, ça va, Marco. Ne me regardez pas.
Mais c'est génial. Hein.
Ah, oui.
C'est génial.
Oui, donc ça serait bien.
C'est probable. C'est quoi le film, si vous
pensez? Non, je ne veux pas.
Vous êtes superstitieuse en tout cas.
Non, je ne veux pas. J'ai pas le droit.
Non, alors je vous demande.
J'ai pas le droit.
Maintenant, les problèmes de santé, ils sont derrière. Les médecins vous en disent.
Je m'assieds dessus, oui.
Et vous êtes en forme. Et c'est reparti pour un
oui,
long
oui,
tour.
Oui, oui, oui. Mais j'ai du mal à monter les escaliers.
Vous allez voir, en descendant, ça sera plus simple. Oui, parce que moi aussi, en montant, j'ai beaucoup de mal. En descendant, c'est plus simple. Le soir, on rentre à la maison.
Merci, Marco.
Merci d'être venu nous donner des bonnes nouvelles, Mireille. Et ne changez pas. La prochaine fois, ça sera dans 33 ans pour la troisième opération. On aura le temps. On en reparlera ensemble. Je vous embrasse bien fort.
Moi aussi, Marco.
Merci beaucoup. À suivre les essences.
Merci. Merci beaucoup. Vous aussi, monsieur.
Oui. Et le monsieur, il va même vous donner du soleil, puisqu'il va vous en annoncer pour tout le week-end. Vous allez voir. Ah. Hein. Allez, à suivre les essentiels de l'info d'RTL Soir, puis direction les États-Unis qui changent de visage. Bientôt, les blancs américains seront minoritaires. Je vous embrasse, Mireille.
18h43. RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h.
18h46.
Les essentiels de l'info d'RTL Soir. Encore un coup de théâtre dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Stéphane Richard, qui vient d'être mis en examen pour escroquerie en bande organisée, affirme que Bernard Tapie était présent en 2007 lors d'une réunion cruciale à l'Elysée sur la procédure d'arbitrage. Guillaume Pelletier de l'UMP préfère relativiser ses révélations.
Je ne vois pas au nom de quoi ce type de réunion serait préjudiciable aux contribuables. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse dans ce dossier, c'est est-ce que les contribuables français ont été floués ? Si c'est le cas, les coupables devront répondre devant la justice. Si ça n'est pas le cas, on aura parlé pour rien.
L'État, lui, va engager un recours en révision contre cet arbitrage qui avait permis, je vous le rappelle, à Bernard Tapie de récupérer plus de 400 millions d'euros. Jean Perlevade, l'ancien président du Crédit Lyonnais, s'en félicite.
J'en suis très heureux. Il était temps. Il y a une manipulation au niveau de l'arbitrage lui-même. Je ne sais pas qui a participé ou pas à cette manipulation. L'enquête le dira. Aujourd'hui, la première chose, c'est l'annulation de l'arbitrage, dont j'espère qu'elle va se produire.
En Turquie, les manifestants tiennent tête au Premier ministre. Ils refusent d'évacuer le parc Gezi à Istanbul alors que ce dernier leur a lancé un dernier avertissement. La grève à la SNCF dure jusqu'à 8 heures demain matin. Un mouvement suivi par les deux tiers des contrôleurs et des agents de conduite. Gare Saint-Lazare, à Paris, Nicolas Georges a croisé un usager qui a cumulé grève dans les airs et grève sur le rail.
Ça a commencé par la grève des aiguilleurs. Les aiguilleurs, j'étais à Bratislava. J'étais obligé de prendre un bus qui est monté en Tchéquie, qui a traversé l'Allemagne. Et je me retrouve en France avec une grève des trains.
Vous gardez le sourire ?
Oh bon oui, ça va faire des souvenirs.
Xavier Darcos, immortel, il a été élu à l'Académie française au fauteuil 40 qu'occupait Pierre-Jean Rémy, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Un fin lettré, vous le savez, a notamment enseigné la littérature comparée à la Sorbonne.
18h47.
Et Isabelle, direction les États-Unis, où pour la première fois en 2012, la population blanche a diminué. Racontez-nous ça, Anthony Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir Marco, bonsoir à tous. Eh bien, c'est effectivement historique et le chiffre est tombé aujourd'hui. En 2012, il y a eu plus de morts que de naissances au sein de la communauté blanche américaine. En clair, la population blanche a diminué de 12 000 personnes en un an. Alors, c'est peu comparé aux 314 millions d'Américains, mais c'est une première qui en annonce d'autres beaucoup plus douloureuses.
Comment ça ?
Eh bien, cette première diminution de la population blanche n'est que le début d'un déclin démographique qui devrait, aux alentours de 2030, c'est-à-dire demain, conduire les Blancs à être minoritaires aux États-Unis. À cette date, l'ensemble composé par les Latinos, les Noirs, les Métis et les Asiatiques sera supérieur en nombre à la totalité des Blancs. Et en plus, ces Blancs seront âgés, ce qui signifie qu'ils seront à la charge pour leur santé et leur retraite des communautés américaines les plus jeunes, à savoir les Latinos et les Noirs.
Et c'est donc presque une révolution.
Et je ne vous le fais pas dire parce qu'il y a mieux encore. La communauté la plus dynamique, celle qui croît donc le plus vite aux États-Unis, ce sont les Asiatiques. Autrement dit, l'Amérique de demain, sera brown, c'est-à-dire mat et non plus blanche de peau, avec une forte proportion de latinos et de noirs et un rattrapage asiatique irrésistible. Eh bien, quant aux blancs américains, je dirais qu'ils sucreront les fraises. Après tout, il y a déjà 62 000 centenaires blancs en 2012. Il n'y avait pas de raison que ça s'arrête en si bon chemin.
Merci Anthony Bélanger. Et en plus, je le veux, et vous exaucez mes voeux, Louis Baudin, c'est magnifique.
Exactement, et pas que les vôtres, hein, j'ai bien compris aujourd'hui.
Parce que demain, racontez-nous tout.
Il va faire beau, hein, on va retrouver un temps sec et ensoleillé. La perturbation d'aujourd'hui va vite nous quitter au cours de la nuit prochaine. Donc demain matin, quelques nuages bas, quelques brouillards vite dissipés. Ensuite, eh bien, le soleil qui s'imposera, pas toujours dans un ciel tout bleu, mais en tout cas une bonne luminosité, pas de pluie et des températures qui vont grimper à nouveau entre 20 et 24 degrés dans la moitié nord et de 24 à 29 encore dans le sud. Tout petit risque d'averse quand même en montagne, mais seulement en fin de journée.
Donc ça c'est pour demain. Demain, J-1 avant le week-end. Ça donne le week-end, oui.
Ça va pas s'arrêter pour le week-end. Hein. Ça continue avec samedi. Encore du temps sec et ensoleillé. Toujours ce risque d'orage en montagne seulement en fin de journée. Les températures grimperont encore un petit peu, mais c'est surtout dimanche qui va faire chaud. Puisque pour la première fois, on va dépasser les 25 degrés dans la moitié nord. On ira jusqu'à 27, 28 degrés. Et les 30 degrés dans le sud. Donc du soleil, de la chaleur et toujours ce petit risque d'orage près des reliefs. Et d'ailleurs, cette chaleur devrait nous accompagner au moins lundi et mardi prochain. Donc vous voyez que là, on va franchir un nouveau palier côté température.
Voyez Isabelle, de quoi vous vous plaignez.
Vous m'emmenez en week-end alors.
Je vous emmène avec moi en week-end. Formidable Louis Baudin, tout à l'heure. Merci beaucoup.
RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
18h53.
Dans le journal de 19h, supporters de foot, attention à vos agendas. Le calendrier de la Ligue 1 2013-2014 vient de tomber. On vous donnera donc toutes les dates importantes des matchs clés. C'est Isabelle, faites passer de tête.
Hein. Non, je vais découvrir ça aussi.
Oui, pourquoi vous n'aimez pas le foot hein.
Si, mais je connais rien.
Bah, tout à l'heure, on vous explique tout avec Ludovic van de Kerckhoff. Mais avant ça, vous aimez Laurent Gérard?
Oh, oui.
Vous y connaissez quelque chose?
À l'imitation. Complètement.
Eh bien, on écoute.
Bonjour Franck. Oh. Les dirigeants du Bayern ont annoncé que votre contrat avec le club était prolongé de 2 ans.
Ouais, super content. Je reste à Munich jusqu'en 2017 et j'y suis depuis 2007.
Oui, d'accord. Quand même, vous devriez savoir que le nom de cette ville s'écrit Munich, c'est vrai, mais se prononce Munich.
Ah, quand j'ai faim et que je me tape un sandwich, il y a bien écrit Ich à la fin.
Oui, Franck, oui.
Alors, je me tape un bon sandwich et pas un bon sandwich.
D'accord. Si vous voulez.
À chaque occasion que vous pouvez me casser, vous en profitez, madame, je sais tout, avec votre langue de pivert.
Vous voulez dire votre langue de vipère, sûrement.
Ah ! Je sais, mais là, je parlais verlan. Faut pas croire qu'il n'y a que vous qui parlez français, chanterez.
Bon, d'accord. Passons à autre chose, si vous le voulez bien. Franck, vous avez déclaré au magazine Bild qu'après la victoire du Bayern en Ligue des Champions, vous avez emporté la coupe chez vous et vous avez dormi avec.
Ouais, c'est vrai. Mais d'abord, j'ai rempli la coupe avec de la bière et avec mes potes de l'équipe, hein, que des brillants sujets.
Oui.
On l'a tout bu.
Oui.
D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Faut boire la coupe jusqu'à la Ligue ».
Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, vous avez raison.
Après, j'ai apporté la coupe à ma maison de Munich et je l'ai mise dans mon lit pour coucher avec elle. C'est vrai, hein?
Oui, oh bah, je
mais
crois.
Cette fois, comme j'ai arrêté mes conneries, j'ai demandé la permission à ma femme.
Mm-hmm.
Elle a même été d'accord pour prendre des photos. Ah, tout ça, je l'ai dit dans Bild. Hein. Et vous savez, la coupe... Les Almagnols.
Non, les Allemands, Franck. Bon, d'accord. Et donc, vous êtes endormi avec cette coupe?
Ouais, mais la suite après, je ne l'ai même pas raconté dans Bild, alors je ne vais pas te la raconter à toi.
Oula.
Pour que tu racontes à tout le monde que ça soit le téléphone à rame.
Oui, le téléphone à rame, oui. Alors, vous pouvez, hein, je sais rester discrète.
Bon, après, en pleine nuit... En pleine nuit, ma femme, elle m'a réveillé en me jetant en seau d'eau froide parce que j'avais pris la coupe en croupe et je la tenais par les oreilles en lui murmurant « Tu m'as donné que du bonheur. Alors, moi aussi, je vais te rendre heureuse. Je vais te faire baver de plaisir. »
La nouvelle est étonnante. Bientôt, les astronautes pourront manger des pizzas imprimées en 3D. C'est en tout cas le projet sur lequel travaille en ce moment la NASA qui finance la création d'un synthétiseur universel de nourriture. Et pour en savoir plus sur cette technologie futuriste, nous recevons bien sûr nos amis les frères Bogdanov. Bonjour messieurs.
Eh bien, bonjour Igor. Eh bien, bonjour Grishka. Et bonjour à la droïde Jade qui nous accompagne dans ce nouveau voyage aux confins de l'univers. Gastronomico-spatio-temporel.
Alors, messieurs, trêve de préliminaire, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de ce synthétiseur de nourriture?
Eh bien, Igor, depuis qu'elle a sa nouvelle coupe de cheveux du futur, l'androïde se prend pour Catwoman en juste au corps. Eh bien, oui, Igor, l'androïde est passée en mode fighter. Elle veut savoir si, dans l'avenir du futur, après avoir rimé sa Mini Cooper intersidérale, la camionnette à pizza orbitale, elle pourra télécommander une pizza 4 fromages en 3D. Eh bien, Grishka, cela risque de prêter à confusion. En effet, je crains que la droïde distraite par Bibi, son mini-chiot bionique, au lieu d'une pizza 4 fromages en 3D, télécommande une pizza 3 fromages en 4D. Eh bien oui, Grishka, ce serait une pizza en 4e dimension, hauteur, largeur, profondeur, mais aussi durée. Eh bien, Grishka, tes explications quantiques m'ont mis l'eau au menton. Eh bien, Igor, moi aussi, j'ai le menton dans les talons.
Ah, excusez-moi, messieurs, mais il me semble plutôt que c'est Igor qui a le menton dans les talons. Et vous, Grishka, vous l'avez dans l'œil. Hein. Mais tout ça ne nous dit pas comment fonctionnera ce synthétiseur universel de nourriture.
Eh bien, Grishka, argumentons. Ce synthétiseur fonctionnera comme une imprimante, une première couche de poudre comestible pour faire la pâte qui cuira pendant l'impression. Ensuite, une poudre de tomate, d'eau et d'huile qui créera la sauce tomate. Et enfin, une pluie de protéines pour saupoudrer le plat. Eh bien, Grishka, il faut prouver ce que tu avances, sinon la droïde va penser que nous mentons.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, justement, Igor, ce que j'avance, c'est mon menton.
Ah, c'est ça.
Eh bien, d'accord, Grishka, je vais synthétiser une pizza 4 saisons en 3D pour toute l'équipe de la matinale. Et comme ça, la droïde verra que c'est ainsi que nous nous alimentons.
Ah ben tiens, bonjour Gérard Rolls.
Bonjour, bonjour, vous savez, dès qu'il y a une grande cause, je suis là. Alors mobilisez-vous pour la télévision publique grecque. Ils ont besoin d'émettre après avoir été coupés. Alors, nous qui avons tant d'émissions de qualité, envoyez à la chaîne ERT, la chaîne grecque publique ERT. Nous avons tant d'animateurs qui servent à rien et d'émissions à chier, alors envoyons-leur. Michel Dionysos arrête, qu'il aille se faire voir chez les Grecs sous le nom de Michel Dionysos. Envoyez-leur. Il fallait la faire. Oui. Envoyez-leur aussi Benjamin Castaldi, qui est très fier de présenter une émission de qualité, Secret Story. Il l'a encore dit. Envoyez aussi les Marseillais à Cancun, les anges de la télé-réalité, Confession intime, les émissions de crime, sur toutes les chaînes de la TNT. Envoyez Jean-Marc Morandini et ses bruits de chiottes. Envoyez-leur Koh-Lanta. Merde, ça n'existe plus. Envoyez-leur Pujadas et Élise Lucet, ça fera baisser notre redevance. Et dans le lot, sauvez Daniel Alombroso. Bref, sauvez la télé grecque. Mobilisez-vous et n'oubliez pas Sophie Davin.
À demain, Laurent, à 9h moins le quart dans la matinale de RTL, signé Laurent Bazin.
RTL,
première radio de France.
RTL.
Bonne soirée, 19h sur RTL.
RTL Soir.
Le 19h, Julien Cellier, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir Julien.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
La réunion qui embarrasse Bernard Tapie, l'homme d'affaires, était à l'Élysée le jour où l'arbitrage de son conflit avec le Crédit Lyonnais a été validé. Confidence de Stéphane Richard aux policiers.
Dur, dur, le retour à la maison, le trafic des trains est très perturbé ce soir. La grève à la SNCF est assez suivie. Privé de télé, les Grecs cessent le travail et manifestent aujourd'hui. Marseille, PSG, ce sera le 6 octobre au Vélodrome. Prenez date, le calendrier de la prochaine Ligue 1 est tombé.
À la fin du journal, l'actualité qui sort de la bouche des enfants, un quart des Français préfèrent se priver de télé que de smartphone. Est-ce le cas dans les cours de récré à 19h15 en fin de monde ?
RTL Soir.
Et vous nous écoutez peut-être d'ailleurs sur votre smartphone, sur le quai de la gare, casque sur les oreilles. Donc, eh bien, bon courage, les trains sont rares ce soir.
Comme prévu, le trafic est très perturbé. Un cheminot sur trois et deux tiers des contrôleurs sont en grève contre la réforme ferroviaire. Nicolas Georges, vous êtes à Saint-Lazare, à Paris, pour RTL. Est-ce que les usagers réussissent à rentrer à la maison ?
Oh bien, elles y arrivent, Julien, même s'ils doivent faire preuve de patience, car à chaque fois, les mêmes scènes se répètent dès qu'un train est affiché. C'est l'affluence vers le quai. Des dizaines de voyageurs courent, espérant avoir de la place dans les rames. Ici, Gare Saint-Lazare, comptez un transilien toutes les 30 minutes contre un toutes les 10 minutes en temps normal. Alors, la SNCF a fait appel à ces fameux gilets rouges pour aiguiller et informer les voyageurs. Des voyageurs souvent résignés, c'est le cas de Guylaine qui rentre chez elle à Rouen.
Je suis partie plutôt pour pouvoir prendre mon train et rentrer chez moi à une heure décente. Et il n'y a pas de train. J'adore. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ce sont les grèves. Ce sont toujours les mêmes qui en pâtissent. C'est totalement insupportable, mais il faut avoir le sourire. Donc voilà, j'attends.
Et trafic perturbé aussi ce soir du côté des RER. Comptez un train sur trois sur les lignes B et D, un sur deux sur les lignes C et E. Service proche de la normale pour le RER A. Du côté des TER, cette fois en région, 40% des trains circulent. Enfin, comptez 4 TGV sur 10 en moyenne au plan national.
Bon courage donc pour le retour à la maison. Nicolas Georges, Gare Saint-Lazare à Paris pour RTL. Bernard Tapie éclaboussé ce soir. Stéphane Richard affirme qu'il était présent à l'Élysée quand l'arbitrage de son conflit avec le Crédit Lyonnais a été planifié.
Réunion qui aurait eu lieu il y a 6 ans au palais présidentiel. Nous allons faire l'arbitrage, aurait même déclaré Claude Guéant. Il était alors secrétaire général de Nicolas Sarkozy. Ces révélations, Stéphane Richard les a faites aux enquêteurs pendant sa garde à vue en début de semaine. En 2007, le PDG d'Orange était directeur de cabinet à Bercy. Le ministère de l'économie avait ensuite demandé à un tribunal privé de solder ce conflit entre la banque et Tapie qui avait alors reçu 400 millions d'euros. En tout cas, ce dernier coup de théâtre fait déjà réagir la classe politique. Jérôme Chapuis vient de joindre François Bayrou. Le leader du Modem avait été l'un des premiers à dénoncer l'arbitrage.
Ça prend l'allure d'un tremblement de terre. Cette réunion, elle présente un degré supplémentaire de gravité. C'est que c'est une réunion d'organisation de cette manœuvre qui repose sur le fait qu'on se met d'accord à l'avance. sur la manière dont les choses vont se passer. Tout ça montre en effet quelle est la gravité des choses qui se sont passées dans ces mois de 2007 et 2008 par une connivence ouverte, organisée entre les plus hauts responsables de l'État et M. Tapie, au profit duquel on va soustraire des centaines de millions aux Français.
François Bayrou avec Jérôme Chapuis pour RTL. Je précise que Bernard Tapie explique ce soir qu'il ne se souvient pas d'une réunion en 2007 à l'Élysée.
En tout cas, l'Élysée, l'État s'empare du dossier. Un recours en révision va être engagé contre cet arbitrage, Julien.
Jean-Marc Ayrault s'est exprimé sur le sujet aujourd'hui. Le Premier ministre conteste l'utilisation de l'arbitrage dans ce contentieux entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais.
Et au milieu de cette tourmente, il y a donc Stéphane Richard, le patron d'Orange. Il a été mis en examen hier pour escroquerie en bande organisée.
Ces révélations aux enquêteurs ont donc été rendu public ce soir. Sa position est donc un peu plus fragilisée. Ce matin sur RTL, la ministre Fleur Pellerin estimait que la question de son maintien se posait. Un conseil d'administration d'Orange décidera la semaine prochaine de son avenir. En attendant, Maud de Carpentier, Stéphane Richard a tenté de vivre une journée comme les autres. Aujourd'hui, ce matin, il était de retour au bureau.
Oui, au sein de l'entreprise, on l'assure, le patron est à son poste comme à son habitude et il travaille même beaucoup. Stéphane Richard est arrivé très tôt ce matin. Il est entré par une petite porte dérobée à l'arrière de l'immense tour du siège Orange, mais mis à part son arrivée, sans doute plus discrète qu'à son habitude pour éviter les caméras et micros, la journée du PDG s'est déroulée normalement, avec de nombreuses réunions. Et le patron d'Orange n'a rien changé à son programme ou presque. Il n'a pas assisté à une réunion publique ce matin qu'il devait inaugurer. Trop de journalistes peut-être. En tout cas, du côté des salariés, on le soutient. Laurent Depont, directeur de la diversité dans l'entreprise.
Il n'y a pas de raison aujourd'hui que quiconque retire sa confiance à Stéphane Richard. Il est toujours notre président à l'heure où je vous parle. Et je crois qu'il est difficile de trouver un patron qui fasse plus sur le climat social de l'entreprise.
Un patron très apprécié donc, qui a d'ailleurs envoyé hier soir un mail à tous ses salariés pour les rassurer et affirmer que sa mise en examen ne concernait en rien le groupe Orange.
Maud de Carpentier pour RTL.
Pierre Gattaz, futur patron des patrons. Le PDG du groupe Radial prendra la tête du MEDEF le 3 juillet. Il est désormais seul en course. Ses deux rivaux, Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Berlasconi, se sont finalement rallié à sa candidature.
Lille dit adieu à Pierre Mauroy. Les obsèques de l'ancien maire ont eu lieu cet après-midi, Julien.
L'ex-premier ministre socialiste est décédé vendredi dernier. Il avait 84 ans. Un ultime hommage lui a été rendu dans une cathédrale comble aujourd'hui. Frank Hanson, de nombreux habitants attendaient même dehors sous la pluie.
Sur le parvis de la cathédrale de la Treille, le cercueil de Pierre Mauroy salué par les applaudissements de ses Lillois sous leur parapluie. Derniers instants d'émotion après une cérémonie sobre rendant hommage au bâtisseur du Nord.
C'est adieu l'artiste, oui.
Il est parti, mais il est toujours parmi nous.
Très émouvant. Grâce à Pierre Mauroy, la ville, elle a pris un essor. Ici, c'était un véritable coupe-gorge. Il a toujours été très simple. Il méritait cet hommage.
Un peu plus tôt, à l'hôtel de ville, Martine Aubry a salué son prédécesseur devant le Premier ministre d'aujourd'hui, les anciens de 81, mais aussi ses derniers collaborateurs lillois et les anonymes. Monsieur le maire, comme il l'a été pendant 28 ans, laisse son empreinte.
Pour chaque Lillois, pour chaque Nordiste, Pierre Mauroy est et restera un géant. Ça n'empêchait pas les mêmes de le surnommer affectueusement Gros Quinquin. Pierre Mauroy, loin de s'en offusquer, s'en amusait lui-même. Merci Pierre, ne t'inquiète pas, on continue.
Pierre Mauroy repose désormais au cimetière de l'Est, comme il l'avait prévu, une sépulture au pied des tours d'Or à Lille, parmi d'anciens élus nordistes et des chansonniers, comme justement le compositeur du Petit Quinquin.
Frank Hanson à Lille pour RTL.
Xavier Darcos, immortel, l'ancien ministre de l'Éducation, est élu à l'Académie française. À 65 ans, il a été choisi parmi 8 prétendants. Il prend le fauteuil du romancier Pierre-Jean Rémy, décédé en 2010. Perquisition dans les labos de Teva à Sens, dans Lyon. En ce moment, la justice s'empare de l'affaire furosémide. Le parquet de Paris a ouvert une enquête hier. Une erreur de conditionnement du médicament pourrait avoir causé plusieurs décès.
Et après la pub, nous irons en Grèce, donc après l'écran noir imposé donc par le gouvernement en raison des contraintes budgétaires.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Et pour le journal avec Julien Cellier, il est 19h09.
Touche pas à mon poste, la Grèce tourne au ralenti après la fermeture de la télé publique, Julien.
Les principaux syndicats ont appelé à la grève générale. Aujourd'hui, le gouvernement a coupé sans préavis les 5 chaînes de l'ERT avant-hier. Une nouvelle mesure d'austérité qui passe mal, très mal. Alexia Kefalas, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le siège du média à Athènes, siège où les reporters font de la résistance.
Oui, à l'intérieur de l'immeuble vétuste de la télévision nationale grecque, les journalistes licenciés depuis la fermeture brutale
totale de l'audiovisuel public sont fortement mobilisées. Les présentateurs continuent d'émettre via Internet et appellent la population à les rejoindre. Pour Kostas Yakoumis, réalisateur de la chaîne, le gouvernement a fait une grave erreur.
La télé publique n'est pas seulement une chaîne de télévision, c'est une institution dans un pays démocratique. Avec ERT, la démocratie s'arrête.
Pourtant, la grève générale de 24 heures déclenchée à l'appel des deux principales centrales syndicales du pays n'a pas été aussi suivie qu'escomptée. Les transports en commun ont observé un arrêt de travail de 3 heures avant de circuler normalement. Le secteur privé était aux abonnés absents lors du rassemblement. Et si la méthode utilisée par le gouvernement est unanimement condamnée, certains, comme Sophia, professeure de lettres, regrettent le laisser-aller de l'audiovisuel public.
Tout le personnel qui travaillait à ERT, c'était les sœurs et les cousins des ministres. Et moi, je paye pour ça sur la facture de l'électricité.
Il n'empêche, les 3000 nouveaux sans-emploi de l'audiovisuel viendront dès lundi alourdir le taux de chômage qui continue son ascension en Grèce et touche 27,4% de la population active.
À Athènes pour RTL, Alexia Kefalas.
Les manifestants défient Erdogan en Turquie. Ils refusent de quitter le parc Gezi à Istanbul. Le Premier ministre a pourtant menacé aujourd'hui. La patience touche à sa fin. Je lance mon dernier avertissement. Fin de citation. Des milliers d'opposants continuent d'occuper jour et nuit les environs de la place Taksim. Nelson Mandela réagit bien au traitement. C'est ce qu'indique le gouvernement en Afrique du Sud. L'ex-président, 94 ans, est hospitalisé depuis 6 jours. Il souffre d'une infection pulmonaire persistante.
Allez, supporters de foot, à vos agendas, Isabelle, pour sortir le vôtre. Le calendrier de la Ligue 1 2013-2014 est tombé.
Des derbies, des chocs entre Paris, Monaco, Marseille ou Lyon. Le prochain championnat nous fait déjà saliver. Ludovic van de Kerkhove, coup d'envoi le vendredi 9 août avec Montpellier PSG.
Et un beau programme aussi pour les 8 matchs du samedi soir. Un dernier le dimanche 11 août. Bordeaux face à Monaco, le promu au moyen hors norme, mais aussi Guingamp-Marseille, Lyon-Nice ou Nantes-Bastia pour le retour de la Ligue 1 à la Beaujoire. Les premiers chocs de la saison ne tarderont pas. Marseille-Monaco le 1er septembre, PSG-Monaco le choc des riches le 22, OM-PSG le 6 octobre. Sachez déjà, si vous avez un séjour dans la capitale à réserver, que PSG-OM se jouera le week-end du 1er mars. Mois de décembre ardu pour Lyon qui ira à Paris le 1er avant de recevoir l'OM le 15. On parle Derby Saint-Étienne-Lyon, le 10 novembre, 21h. Le retour à Gerland le week-end du 29 mars. Rennes-Nantes, vous me l'avez demandé, Julien, ce sera le week-end du 28 septembre. Nice-Monaco, le mercredi 4 décembre. Une autre journée se disputera un mercredi dès le 25 septembre, avec notamment Marseille-Saint-Étienne. Enfin, je vous donne l'un des chocs qui pimenteront le sprint final. Marseille-Lyon, le dimanche 4 mai, à deux journées de la fin. Ça sera sur mon show.
Vous avez demandé Rennes-Nantes.
À Rennes-Nantes, 28 septembre, le billet de train est déjà pris.
RTT, donc. Ludovic van de Kerkhove pour RTL. La météo, Louis Baudin, demain, il fera beau partout.
Exactement, on est pas mal à y croire hein, après.
Et Audrey Pulvar est contente. Hein. Bonsoir Audrey.
Bonsoir. On va beaucoup être content. C'est vrai que la perturbation d'aujourd'hui va vite nous quitter la nuit prochaine. Et donc, dès demain matin, on retrouvera du temps sec partout, avec quelques nuages, quelques brouillards ici et là. Mais très vite, c'est le soleil qui s'imposera, notamment au cours d'après-midi. Petit risque d'averse en montagne, seulement en montagne. Puis les températures, elles vont monter. 17 à 19 près de la Manche, 21 à 23 dans la moitié nord. Nous revoilà dans des valeurs de saison et 24 à 29 même dans la moitié sud.
Merci Louis. Pour les guignols, la télévision, c'est l'ancêtre d'Internet. En tout cas, un Français sur quatre choisit plutôt son smartphone à sa télé. Les enfants, qu'a rencontré Lauriane Dervoux?
Moi, je pouvais pas choisir.
Moi, je préférais le smartphone parce que tu peux aller n'importe où. Tu peux pas aller dans le métro portant une télé.
On peut aller sur Google pour chercher des informations.
Et on peut regarder France 2, TF1.
On peut avoir des jeux dessus.
Ma sœur, elle écoute de la musique. Elle danse avec le smartphone dans la main.
Je trouve que c'est beaucoup plus marrant, le smartphone, parce que la télé, tu t'ennuies au bout d'un moment.
En gros, en fait, avec le smartphone, on est connecté au monde. La télé, on est tout seul. Un smartphone, c'est un peu comme sur la télé, mais en mieux.
On va pas passer le temps.
On peut plus s'en détaché quand on est dessus.
Moi, je dis que ce qui ferait le plus plaisir à nos parents, c'est qu'on n'ait qu'une télé, puisque le smartphone, ça nous hypnotise un peu.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sans leur smartphone, ils sont perdus.
Oui, si ils perdent leur smartphone, par exemple, ils rentrent chez eux, ils disent « Oh, la boulette !» C'est comme si, en fait...
C'est comme si c'est ta vie.
Pensez aux gens qui vivaient dans les années 60, ils lisaient le journal tous les jours. C'est vraiment extraordinaire pour eux que le smartphone soit devenu indispensable.
Moi, je dis que je préfère la télé. C'est bien, tu peux t'allonger sur le canapé.
Il n'y a pas mieux que la télé pour regarder du sport, un match de foot.
C'est vrai que moi, je préfère regarder un film sur la télé que sur un smartphone.
C'est plus grand, c'est de la meilleure qualité.
Moi, j'ai été privée de télé un mois. Quand même, c'était un peu dur. Les livres, c'est bien, mais à la fin, c'est un peu énervant.
Mais quand même, aujourd'hui, je pense que la télé a un petit peu dépassé.
Ah non, pas pour moi. La télé n'est pas du tout devenue ringard. Parce que en même temps, il y a beaucoup de gens qui la regardent encore. Mais elle n'est pas encore complètement morte, la télé. Hein. Elle n'est pas prête de disparaître.
Audrey Pulvar est contente. Louis Baudin aussi. Nous, à la radio, de toute façon, on s'en fiche. Allez, à suivre. On échange, on se confronte. On débat, on refait le monde sur RTL.